Bonjour à chacun. Alors j'interviens en tant qu'antenne de Portes Ouvertes, car nous avons préparé ce culte avec l'aide de leur matériel, de leur réflexion. Et nous allons introduire par une petite vidéo, parce que j'ai été très surprise en cherchant dans tous les documents de Portes Ouvertes, de voir une interview d'un homme de Dieu que j'ai rencontré quand j'étais en Égypte. C'est un assistant pasteur dans une grande église qui est collaborateur de Portes Ouvertes. Alors je vais lui laisser la parole. Cette église d'Égypte, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, quand on chantait, je me souvenais de la façon dont ces gens chantent. Ils chantent, ils lèvent les mains, comme ça, ils chantent pendant une heure. Ça fait que le culte dure deux heures. Hein? Et c'est... Bon, il faut aussi un peu débulquer, parce que la musique est aussi très forte. Mais il y a une dynamique, il y a une... comment je pourrais dire, ces gens qui vivent les choses difficiles dans leur quotidien, quand ils se retrouvent à l'église, c'est vraiment leur famille, c'est là où ils se sentent bien, c'est là où ils peuvent exprimer leur joie d'avoir un Dieu qui s'occupe d'eux. Et suite à tous les événements du printemps arabe, une des coordinatrices de Portes Ouvertes est retournée en Égypte et s'est posée la question est-ce que l'église est toujours la même, est-ce qu'elle a toujours le même esprit. Voilà ce qu'elle dit. Un an et demi après la révolution arabe, je m'attendais à ce que l'église égyptienne soit repliée sur elle-même, apeurée et faible. Je pensais visiter des assemblées désertées, des chrétiens au sourire triste, à bout de force. Oubliez tout cela, la réalité sur place est tout autre. Certes, l'atmosphère du pays est plutôt lourde, voire même anarchique. Les manifestations sur la place Tahrir sont quasi quotidiennes. Les kidnappings se multiplient, les vols aussi. Bref, la tension et la peur sont palpables. Mais quand vous entrez dans une église copte, vous réalisez que vous devez revoir vos jugements. Alors, je vous rappelle juste, l'église copte, c'est... les coptes, ce sont les chrétiens d'origine en Égypte. Représente à peu près 10 millions de personnes, et il y a de cela toutes les tendances chrétiennes. Il y a catholiques, protestants, évangéliques, et ce qui est extraordinaire, c'est que, je vous le dirai tout à l'heure, c'est qu'il y a un vrai réveil dans cette communauté copte. Pour de simples réunions de prière, les églises n'ont pas assez de sièges, trop de personnes viennent, les chants vous transportent de passion et de ferveur. Alors, par exemple, Jésus, visite notre pays, que le réveil vienne en Égypte, envoie-moi, Seigneur. Le message donné par le pasteur nous rappelle la merveilleuse grâce de Dieu, mais aussi la grâce qu'il nous donne de souffrir. Mon regard occidental a été totalement changé par celui de l'Église persécutée. Loin d'anéantir l'Église, le printemps arabe lui a donné un nouveau souffle, celui de l'unité. Chaque semaine, une immense réunion de prière à l'église Kazel El Debara, près de la place Tahrir, rassemble des chrétiens de toute dénomination pour intercéder pour l'église. Et dans une autre information, du 25 au 28 octobre dernier, il y a eu 45 000 coptes orthodoxes et évangéliques qui se sont retrouvés à Wadi El Natroum lors d'un rassemblement. C'est cette grande propriété qui appartient à des chrétiens dans le désert, à l'ouest du Caire, que j'avais visité, où il y avait eu des jeunes, vous rappelez, qui s'étaient rassemblés pour louer le Seigneur. Et là, dans toute cette semaine, sont venues à peu près 45 000 personnes. Et il y a eu des retransmissions sur satellite, et qui ont atteint à peu près 2 à 3 millions de personnes, et on a estimé à peu près à 25 000 personnes à la fin de cette convention qui se sont engagées pour Jésus. Ça, c'est qu'était une église victorieuse dans la tempête. Prions pour l'Égypte, prions pour la protection et pour que les chrétiens continue à avoir ce ministère d'apporter la bonne nouvelle. Je vais vous parler d'un autre pays qui est la Syrie. Vous savez que la Syrie donc, vit depuis presque 2 ans une guerre civile, et notamment à Homs, une ville martyre. Les chrétiens vivent la situation très, très difficilement. 80% ont fui la ville. Pourquoi ? Parce que les rebelles ont laissé la place aux extrémistes qui contrôlent les rues et donc tourmentent énormément les chrétiens. Donc, énormément de chrétiens ont fui la ville, mais pas pour partir, pas pour se sauver du pays, mais pour habiter dans les villages aux environs. Ils sont donc réfugiés. Et les églises des villages et des villes environnantes vont aider ces réfugiés et reçoivent aussi des soutiens de portes ouvertes. Ce qui les fait tenir, c'est leur foi. Ces églises, elles prient non-stop, elles prient 24 heures sur 24. Prions que Dieu mette sa main sur cette situation si difficile. Et ils disent aussi qu'ils sont reconnaissants pour la prière de chacun dans le monde entier. Pour eux, il s'agit d'un des rares moments où l'Église de Syrie ressent la véritable unité du corps de Christ dans le monde. Alors les chrétiens, bien sûr, font tout leur possible pour soulager les souffrances de leur population. Mais eux-mêmes sont aussi très démunis. Et Brian et Hélène m'ont fait part de la situation difficile d'une famille qu'ils connaissent. Jihad est prof de maths, son épouse et ses 3 enfants se sont cachés dans la montagne. Ils ne souhaitent pas quitter leur pays car ils aiment leur pays. Mais voilà, ils sont réfugiés, ils sont cachés. Et je vous engage à prier pour leur sécurité ainsi celle de toutes ces églises en Syrie. Que la paix vienne enfin, que les bains de sang s'arrêtent et que la gloire du Dieu vivant demeure dans cette église de Syrie. Voilà, je laisse la place à Jean-Paul pour le message.
Merci Anne-Marie pour ce court résumé. C'était un choix qu'on avait fait de... non pas de passer des longues vidéos qui vont toujours nous dire les mêmes choses, mais de réfléchir un petit peu différemment à cette persécution. Merci aussi à Nicolas pour sa... Je ne sais pas où est Nicolas, je le trouve là-bas. Pour ta franchise, je crois que ça, c'est aussi bien de... C'est bien de partager des bons moments, c'est aussi important de partager des moments où on se sent plus faible et on est plus dépendant de la grâce de Dieu. Il faut bien admettre en tant que chrétien que l'idée... de la persécution est une idée qui nous laisse mal à l'aise. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, assis sur votre chaise, elles sont confortables, hein, on les a choisies confortables, assis sur votre chaise en sachant que des personnes risquent leur vie toutes les fois qu'elles vont prier. D'abord parce qu'on est peureux, tous, on est peureux. Puis parce que la persécution, c'est l'inconnu aussi. Qu'est-ce que c'est véritablement ? Et puis aussi parce qu'elle paraît loin de nous, cette persécution. C'est toujours loin, dans des pays lointains, c'est outre-mer, etc. Oui, c'est qu'à quelques heures d'avion de chez nous. C'est tout près. Et puis il y a aussi de la persécution dans les pays tout proches. Et il y a aussi de la persécution dans notre pays. Et nous nous rendons compte, en fait, que la persécution, elle est autour de nous. Et puis aussi parce que, à quelque part dans notre réflexion, on pense aussi que, tôt ou tard, mais on ne sait pas quand, et ça nous gêne, ça pourrait peut-être s'abattre sur nous, à tel moment ou dans telle circonstance. Et avec là, chacun, la question, que nous soyons chrétiens depuis très longtemps, pasteurs, missionnaires, simples chrétiens, converti fraîchement, avec la même question, et c'est ressorti dans nos prières ce matin encore, qu'est-ce que je ferais ? Comment est-ce que moi, je réagirais ? Et là, personne ne fait le malin, je crois. On est tous dans la même situation. Le moment venu, est-ce que je serai à la hauteur de ce que Dieu attend de ses enfants, de son enfant? Parce qu'il attend des autres, ce qu'il attend de moi à ce moment-là. Comment trouver le courage? On parle souvent du mot courage dans la persécution. Vous avez vu dans les termes. Hein, comment trouver ce courage d'affirmer sa foi coûte que coûte? Mais réfléchissez à ce coûte que coûte. Réfléchissez à cette famille dont la femme et les enfants doivent être cachés dans la montagne, simplement parce qu'ils croient en Dieu. Simplement parce qu'ils croient en Dieu. Est-ce que je serai persévérant? Il y a plein de questions qui doivent nous venir comme ça. Alors, il nous faut venir ici à la parole de Dieu. Jésus lui-même apporte dans la parole la base de ce courage. On va mettre ce courage, hein, entre parenthèses, si vous voulez bien. Dans un récit qu'on va lire, c'est quelques versets, c'est quatre versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, quatre versets que je vous lis. Vous connaissez tout à fait ce passage. Jean 20, le verset 19 jusqu'au verset 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, on va dire le dimanche, pour nous, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Quelques paroles du Christ dans tout un contexte, mais quelques paroles simplement données dans un petit passage. Si on n'y fait pas attention, c'est une histoire comme une autre. Mais je vous invite à réfléchir à cette histoire dans l'approche de la persécution. Nous allons découvrir donc comment, d'une façon simple, le Christ va redonner courage à ses disciples, pris de peur et les rendre capables d'actions nouvelles. Enseignement pour les temps de persécution, mais aussi pour toutes les situations difficiles que nous rencontrons dans nos vies. Et nous rencontrons des situations difficiles, pas forcément à cause de notre foi, mais peut-être aussi à cause de notre foi. Le Christ vient de mourir, juste avant ce passage. Il y a eu Golgotha. Le Christ vient de mourir, les disciples sont réunis ensemble, et vous l'avez lu, vous l'avez entendu, ils sont barricadés dans cette maison. Les portes sont fermées, probablement à clé, hein. Les portes sont fermées parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des Juifs. Ils ont peur d'être, je ne sais pas, battus, tués, jetés en prison, comme d'autres l'ont été. C'est ici, dans ce passage, la peur originelle de la persécution. Et on pourrait dire que si on regarde les évangiles, le premier persécuté, c'est le Christ. Il a été mis à mort pour sa foi, le Christ, pour ce qu'il proclamait, parce qu'il parlait de Dieu, simplement. On a d'autres, dans l'Ancien Testament, d'autres personnes qui ont subi à cause de leur foi, mais dans ce Nouveau Testament, depuis la venue du Christ, on est là dans vraiment le début de quelque chose de dur. C'est le début de la persécution dans toute l'histoire de la persécution dans l'histoire de l'Église. Et moi, j'ai été marqué, je ne vous cache pas, pendant ma jeunesse, quand j'étais petit, j'ai été marqué par un bouquin que j'avais vu à la maison et qui parlait de ces chrétiens qui étaient dévorés dans le cirque par les lions. Ça m'a terrorisé pendant des dizaines d'années, ce truc-là, complètement. Et puis, je suis allé voir une fois à Lyon l'amphithéâtre où Blandine, sainte Blandine, puisqu'on dit qu'on l'a dit sainte, était la première martyre à Lyon et qui avait été donc dévorée par les lions pour sa foi. Et ça m'avait vraiment, vraiment touché. Et j'ai vraiment dû demander à Dieu de me libérer de cette trouille, mais cette peur dans mon corps d'être dévorée par les lions une fois, moi aussi, pour ma foi. Essayons de nous projeter un instant à la place de ces gens. Ils viennent de vivre de tout près, dans un espace de temps très très court, l'arrestation de Jésus, son interrogatoire hors du commun, quand même, par Pilate, sa condamnation, sa crucifixion, sa mort et sa mise au tombeau. Rajoutez à cela les chocs comme la trahison de Judas, le reniement de Pierre et les premiers témoignages disant que le Christ était vivant. On sent bien que dans cette maison, dans cette pièce, l'atmosphère n'était pas au beau fixe. Hein. Je ne sais pas si vous sentez la moiteur de la pièce, là. C'est pas facile. Hein. L'atmosphère était irréelle là-dedans, tendue au maximum. Entrons dans cette chambre où les premiers chrétiens sont réunis. Quels sont les sentiments? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut sortir? Oui, la porte était fermée, ils avaient peur de ce qu'il y avait dehors. Hein. C'est pas facile de se mettre à la place. Moi, je vous interpelle là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent? Est-ce qu'ils parlaient déjà? Ils parlaient certainement, c'est clair, hein, mais c'est pas facile de se mettre à leur place. Hein. Dans quelle situation ils étaient? Qu'est-ce qu'ils vivaient vraiment? Le désarroi, totalement, l'abattement, l'insécurité, le doute peut-être, l'incrédulité. En tout cas, ce n'était pas une situation agréable pour eux. Le soir, je relis le verset, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils savaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous !» Que la paix soit avec vous. Littéralement, paix à vous. Paix à vous. Paix à vous qui êtes dans ce lieu. Imaginons de nouveau un instant les disciples. On a vu dans quel état ils étaient. Et tout d'un coup, le Christ est là. Tout d'un coup, le Christ est là, au milieu d'eux, et leur apporte ces mots forts et bienfaisants, que la paix soit avec vous. Difficile aussi de ressentir cette scène, de se l'approprier. Où d'un coup, le trouble ambiant fait brusquement place à cette parole de bénédiction que Dieu apporte, « Paix à vous ». D'une part, la puissance de cette parole, qui occulte totalement même la façon dont le Christ est entré dans la pièce. Remarquez qu'il n'y en a pas un qui va se poser la question. Totalement. Par où il est entré? Passe-muraille. Et d'un autre côté, dans la bouche de Jésus, pas un seul mot de reproche, pas un seul mot d'accusation. Pourtant, le Christ sait tout. Le reniement de Pierre, la fuite des disciples les uns après les autres, leur peur, leur foi brisée, chancelante, leur doute, l'histoire de Judas. Le Christ connaît tout. Il leur dira simplement « Paix à vous ». Il vous dit simplement, il nous dit simplement « Paix à vous ». Jésus connaît nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos reniements, notre fuite. Mais en face à chaque fois, il nous apporte simplement sa paix. Aux disciples bouleversés, il va montrer ses mains, percées, son côté, percé par la lance, et les disciples vont simplement se réjouir en le voyant, car ils viennent de recevoir sa paix. Les doutes, nos doutes, sont choses normales. Jésus répond aux disciples en leur montrant la réalité. Et plus tard même, il va inviter Thomas à toucher pour se rendre compte. Verset 27, « Avance ici ton doigt, Thomas, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » L'aide spirituelle que le Christ donne à ses disciples non pas seulement à ceux-là qui étaient dans cette chambre fermée, mais à tous ses enfants, est totalement exempte de mots comme « tu dois » ou « il faut que » ou « tu n'as pas ». Jésus détient la paix. Jésus est la paix. Cette paix bienfaisante, il nous la donne. Il vous la donne. Il te la donne personnellement. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec nous. Que la paix soit avec toi. C'est ce que dit le Christ en entrant dans cette pièce. Cette paix, c'est le cadeau de Dieu à tous. C'est ce qui réjouit le cœur des disciples. Frères et sœurs, est-ce que ça nous réjouit également, nous, cette paix de Dieu, dans notre situation où nous sommes individuellement, où nous sommes ce matin ici? Est-ce que cette pièce, elle n'est pas fermée à clé, mais cette pièce fermée, nous sentons la paix de Dieu à l'intérieur? Est-ce que nous pouvons sentir l'annonce que nous avons eu dans ce passage, de cette paix sur nous, sur vous, sur moi individuellement? Mais, vous l'avez vu dans ce court passage, Jésus ne va pas en rester là. Jésus leur dit de nouveau, verset 21, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ça, c'est la réponse de Jésus à nos peurs et à nos doutes, pour nous maintenant. Il nous donne sa paix et il veille à ce que la mission, et c'est important de nous le rappeler, il veille à ce que la mission reçue de son Père ne s'interrompe pas, qu'elle continue. Pendant son temps sur terre, Jésus a permis aux hommes et aux femmes de voir et de vivre l'amour et la puissance de Dieu. Et cela doit continuer. Et rien ne doit pouvoir l'arrêter, même pas la persécution. C'est pour cela qu'il console. C'est pour cela qu'il va redonner sans cesse aux chrétiens persécutés, le courage et la foi. Il leur donne sa paix. Il n'est pas question ici, et vous l'avez lu et vous l'avez vu et vous l'entendez, il n'est jamais question d'héroïsme. On est loin de cette idée de faire un martyrologe, par exemple, comme ce livre qui avait été fait, où pour finir dans les premiers temps de l'Église, on notait le nom des chrétiens, et la plus grande gloire pour un des chrétiens, c'est d'avoir son nom écrit dans le martyrologe. Non, ça n'est pas du tout l'idée de Dieu. Il n'est pas question ici d'héroïsme, mais plutôt de suivre la mission que Dieu nous a donnée. La mission donnée par son Père, aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est question de l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. Dieu va chercher les gens là où ils sont, même derrière les portes fermées, même derrière les portes fermées, même derrière les cœurs fermés. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ces quelques mots du témoignage de Loïc, où il disait « mais là où Dieu est allé me chercher », mais personne ne pouvait aller me chercher. Là, ce n'était pas dans son témoignage, excusez-nous, c'est dans l'entretien qu'on a eu avec Philippe et avec lui. Mais là, Loïc disait, mais jusqu'au fond du trou où j'étais, il est allé me chercher. C'est incroyable, personne ne pouvait me trouver là. Mais Dieu l'a fait. Et il nous dit simplement, comme mot d'encouragement, paix à vous. Paix à vous. Vous avez tous, vous ici présents, un point commun. Au moins, je suis sûr. Hein. Vous avez tous été des enfants. Pas compliqué, à un moment ou à l'autre. Et pour beaucoup, vous êtes devenus des parents. Alors j'ai une question à vous poser. Quand un enfant est tombé en jouant, et qu'il revient vers sa maman, qu'il accourt vers elle en larmes, avec le gros chagrin, en montrant sa main. Qu'est-ce que maman le fait? Pardon? Un bisou magique? Ouais. Autre chose? Alors les mamans, gros câlin. Autre chose, moi je me souviens de ça de ma maman. Elle souffle. Elle souffle un souffle d'air apaisant sur la main blessée de son enfant. Verset 22, après ces paroles, le Christ souffla sur eux. Souffla sur eux et leur dit, recevez mon esprit. Recevez le Saint-Esprit, pardon. Jésus souffla sur eux. Jésus souffla sur eux. C'est un acte de proximité, d'intimité, d'amour. Un acte de paix. Il se tient tout près des disciples, craintifs, tristes, désemparés, faibles. Mais il ne souffle pas de loin. Ça ne fait pas beaucoup de poussière. Non. Il souffle, il console, il donne le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qu'il nous a justement laissé lors de son départ. Et c'est exactement là le parallèle avec notre texte. Que fait l'enfant quand sa maman l'aura consolé? Gros câlin, souffler un petit coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il repart jouer. Nos problèmes. Simplement. Après avoir été consolé par le Christ, après qu'il leur ait donné son esprit, après qu'il nous ait consolé et qu'il nous ait donné son esprit, il nous rend capable de poursuivre la mission confiée par Dieu. Les persécutions, les attaques, les peurs, les doutes sont toutes des choses qui s'opposent à cette mission divine de Dieu d'aller chercher les hommes là où ils sont et vise à empêcher que l'amour de Dieu puisse être vu au grand jour, puisse être connu, puisse être vécu par tous. À cette action négative, on dira de l'ennemi, mais de toutes les choses qui nous éloignent de Dieu aussi, Jésus oppose un claquant paix sur vous. La paix soit avec vous. Rien qu'avec ces mots, il nous donne sa force et nous rend capable de continuer la mission qu'il a commencée. Aujourd'hui encore, et malgré les pires persécutions, les disciples ont été heureux, nous l'avons lu dans notre texte, les disciples ont été heureux de voir le Seigneur et de vivre avec lui cette rencontre intense et consolatrice. Et nous, aujourd'hui à Préfecins, entre autres, puisque nous sommes à Préfecins, dans quel état d'esprit sommes-nous après avoir reçu cette bénédiction de Dieu, que la paix soit avec vous. Personnellement, pour chacun de nous, paix à vous. Je vous invite à un tout petit temps de silence en réfléchissant à cette bénédiction que Dieu nous donne. Dans chacun de nos moments personnels, de notre vie personnelle, de ce qui nous est difficile en ce moment, de ce qui nous perturbe, de ce qui trouble peut-être notre foi, de ce que nous sentons peut-être comme une injustice ou une persécution. Je vous invite à nous remettre devant Dieu à genoux et à écouter ce « paix soit avec vous » dans un petit temps de silence. Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs mieux que nous. Tu sais quand nous nous levons, tu sais quand nous nous couchons. Et nous voulons, Seigneur, recevoir cette paix que tu donnes au-delà, par-dessus et libérant toutes nos craintes, tous nos doutes, tout ce qui nous pèse chacun. Nous te remercions parce qu'avec cette paix, Seigneur, tu nous donnes l'impulsion pour repartir avec toi, jour après jour, instant après instant, épreuve après épreuve. Nous te remercions parce que c'est ce que tu as donné à ces chrétiens réunis ensemble en ton nom et qui avaient peur ce jour-là. Et c'est ce que tu veux nous donner. C'est ce que tu donnes depuis ces temps-là à chacun de tes enfants qui appellent à toi. Seigneur, nous nous attendons à cette paix, nous te prions que tu veuilles bien nous l'accorder. Et nous te prions aussi que nous soyons vraiment ouverts à la recevoir pour marcher avec toi. Amen. Le Christ va encore laisser à ses disciples, avant de partir, cette invitation à cette table, à ce repas. Et en discutant pour préparer ce culte, je pensais que, comme le Christ dit, je ne boirai plus jamais de cette coupe, jusqu'à ce que je la bois dans le royaume. Je me disais qu'avec nos frères et sœurs persécutés dans les pays, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et des gens aussi, c'est important de le dire, avec qui peut-être on aurait du mal à avoir des relations parce que leur foi ne correspond pas à la nôtre, ou notre foi ne correspond pas à la leur. Et peut-être on serait plus difficile pour collaborer avec eux, et pourtant on prie pour eux sans aucun problème. Et c'est ça qui est bien. Et peut-être que, en prenant cette scène, en partageant cette scène, on veut faire deux choses ce matin. On veut, plus que jamais, après ce récit tellement fort, accepter dans cet appel à partager ce repas, accepter cette paix de Dieu, cette paix qu'il a donnée à ses disciples. Et l'accepter en pensant à nos frères et sœurs persécutés, et en pensant qu'un jour, on partagera ce repas avec eux, parce que la paix de Dieu sera arrivée totalement. Et dans un deuxième temps, dans le temps où on aura la distribution du pain et du vin, dans ce temps, je vous invite vraiment nombreux, à prier pour nos frères et sœurs persécutés, pour ceux qu'on ne connaît pas, pour tous ces gens qui souffrent, en demandant simplement, par des prières courtes, que la paix leur soit accordée. Simplement, que dans le lieu où ils sont, dans la situation où ils sont, la paix leur soit accordée. Je crois que c'est une chose qu'on peut faire avec tous nos frères et sœurs qui sont réunis aujourd'hui et qui prient aussi pour cela. C'est avec joie que nous devons partager ce repas. Ce n'est pas un repas qui est triste, c'est un repas qui nous ouvre vers l'espérance de Dieu, vers son retour, vers le retour du Christ. Un repas où il nous invite. Quand on est invité à un repas, on est content. On ne va pas en faisant la tête. C'est difficile pour ceux qui vous reçoivent. Là, c'est le Christ qui nous reçoit. Alors, bien sûr, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Et on est triste pour nos frères et sœurs. Mais on a vu que Dieu nous donnait la paix. Alors, c'est avec la paix que nous voulons partager aujourd'hui ce repas. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le sacrifice ultime du Christ sur la croix, pour son corps symbolisé ici par le pain, corps brisé à la croix, corps blessé, mais le même corps qu'il a montré aux disciples. Ce jour-là, le corps qu'a touché Thomas, l'incrédule. Nous allons rendre grâce pour la coupe, à la fois symbole du sang du Christ, versé pour toutes nos fautes, à nous personnellement, mais à la fois symbole de l'alliance de paix que Dieu fait avec nous. Alors je vous propose dans ce temps de scène vraiment de prier, vraiment pour nos frères et sœurs persécutés. Et je vous propose une deuxième action à la sortie, c'est de signer. Alors, on ne le fait pas souvent, on le fait un petit peu, ça nous gêne des fois, mais je vous invite à vous libérer puis à signer une pétition qui sera à prendre et à signer chez vous et à envoyer. C'est un acte qu'on peut faire, qui est facile. Alors Anne-Marie en tiendra à votre disposition, il y en a une dizaine de photocopiées. On ne veut pas non plus, il y a quelques pages je crois, hein, donc on ne veut pas non plus en faire plus de photocopies. On peut en faire, il y a une photocopieuse ici. On vous invite à les prendre, à les signer. C'est un soutien qu'on va envoyer à une ambassade de...
C'est au Kazakhstan, pardon. Alors, c'est un certain monsieur, le nom est très difficile à prononcer, Djabarbergenov, qui s'est réfugié au Kazakhstan, qui vient, lui, d'Ouzbékistan, et... Qui s'est réfugié pour un problème de comment je pourrais dire, par rapport à sa foi. Il était menacé dans son pays, il se réfugie donc au Kazakhstan, et voilà pas que le Kazakhstan souhaite l'extrader en Ouzbékistan. Et donc, il va être emprisonné en attendant son extradition. Alors, on signe une pétition à l'ambassade du Kazakhstan pour demander que son extradition ne soit pas effective, parce que ça consiste à une violation de la Convention des réfugiés de l'ONU. Voilà.
Alors, c'est un petit acte, mais ce n'est pas anodin. Attends. Ce n'est pas facile de faire pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis peut-être de mettre en doute, oui, mais est-ce que vraiment ? Moi, je vous invite à vous libérer puis à le faire, directement. Mais sans aucun... Je pense qu'on a entendu ce matin que ces gens attendaient qu'on prie pour eux, attendaient qu'on agisse pour eux. On va prier pour eux. Moi, je vous propose d'agir pour eux, simplement, et qu'on soit obligé de faire plein de photocopies à la sortie pour que vous les preniez. C'est vraiment un acte, je ne vais pas dire citoyen, mais un acte citoyen du ciel que Dieu nous demande. Alors, c'est un peu politique, bien sûr, hein. C'est un engagement, mais je crois que si on a reçu la paix de Dieu, on n'aura pas peur de le faire. Et on aura la joie de le faire aussi pour ce frère qu'on ne connaît pas. Et on pourra aussi prier pour lui. On va dire notre frère qui est au Kazakhstan, là, parce que son nom, il est vraiment imprononçable. Vous pourrez le dire dans vos prières. J'invite les personnes qui sont désignées là pour la scène.
Seigneur, merci pour ta nourriture. Merci parce qu'elle nous encourage aujourd'hui à rentrer dans ce temps de prière pour nos frères et sœurs. Que tu puisses apporter ta paix sur ces personnes persécutées, Seigneur Jésus. Amen.
Seigneur, merci pour ce privilège qu'on a aujourd'hui de venir ici, librement. Et puis même comme ça, on se sent persécuté aussi de temps en temps. Je prie pour les autres qui sont... vraiment dans cette situation-là, et que je prie aussi qu'ils ont l'opportunité de prendre le pain et le vin, là, en souvenir de toi, qu'on a tout ça en commun avec toi, Seigneur, persécuté ou pas, que tu es mort pour nous sous cette croix. Et grâce à ça, on peut passer la vie éternelle avec toi, Seigneur. Amen.
J'aimerais partager avec vous les annonces concernant les activités de l'Église cette semaine. Il y a beaucoup de choses cette semaine. Demain, lundi 14h, Femme Club. Mardi 14h30, études bibliques des aînés, ici. Mardi soir, ici. Alors, on ne va pas dire que c'est un hasard, hein, avec un grand D. Hein. On a une conférence ici qui est donnée par un pasteur, Jean-Claude Basset. C'est sur le sujet de la situation, justement, des chrétiens dans les pays où ils sont persécutés, dans les pays musulmans. Ce pasteur est un pasteur qui est à Genève, mais qui a été en poste pendant de nombreuses années en Iran, donc un pays pas très ouvert non plus, hein, en Iran, qui y est retourné récemment, et qui donc apportera, la pastorale avait souhaité avoir ce contact avec lui, et donc qui apportera, c'est une soirée organisée par la pastorale, qui apportera un éclaircissement sur la situation des églises dans les pays totalitaires de l'Est. Donc ce sera intéressant, c'est ici à 20h30. Je vous invite vraiment à prendre cette soirée, ça sera très intéressant. Et puis dans la suite de ça, alors ça, tout à fait, c'est tombé comme ça, mais je pense que ça a été guidé par Dieu aussi. Il y a toute une formation le week-end prochain chez nos frères et sœurs de Saint-Genis, à l'église Ménonite. Je mettrai un panneau au fond aussi. Toute une formation qui est donnée par Jamil Chabou, qui est secrétaire régional des groupes bibliques universitaires pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et qui donnera toute une série d'études spécifiques pour les chrétiens sur l'islam. Alors je vous donne les thèmes. Samedi 15h à 16h30, introduction à l'islam. 17h à 18h30, islam et islamiste. Ensuite, pique-nique tiré des sacs pour ceux qui veulent rester sur place. 20h30 à 22h, la place de Jésus dans le Coran. Et dimanche, au culte, la prédication, rencontrer notre prochain quand il est musulman. Donc des choses tout à fait pratiques. Je laisse ça au fond, c'est à Saint-Genis, donc chez nos frères et sœurs ménonites. Je continue pour la semaine, donc, ici. Mercredi, chorale, ici. Jeudi, ce sont les cellules de prière. La cellule de Gex sera chez Philippe et Anne-Marie. La cellule de Prefsache, comme d'habitude, chez Manu et Rebecca. Et la cellule de Colonge chez Franck et Johanna. Samedi, activité des ados. Samedi, groupe de jeunes. Dimanche, 9h30, café, thé au sous-sol. Et notre culte à 10h30.
En fait, il y a le club d'enfants samedi matin.
Le club d'enfants samedi matin. Merci de le rappeler. Il n'a pas été mis sur le site. Hein. Je crois qu'il n'est pas. Hein. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Bien de le rappeler. Très bien, club d'enfants. Alors là, on ne m'a pas donné les infos pour dimanche, pour la répétition. On ne m'a pas donné les infos. Donc répétition après le culte de dimanche prochain pour Noël. Moi, je vous invite à continuer à vous inscrire sur les panneaux qu'il y a pour Noël aussi. Une chose aussi importante, je vous invite à vous inscrire sur le Dodol pour la banque alimentaire. On a besoin de vos inscriptions. Réfléchissez vraiment à donner une heure ou deux pour cette banque alimentaire à la fin du mois, le 23 et le 24. Hein. Vous avez reçu le lien. Si vous n'avez pas reçu ou si vous n'avez pas d'ordinateur, vous me dites, je vous inscrirai dessus directement. On aura aussi pensez aussi à ça déjà. Il y a un groupe aussi qui est engagé pour le Téléthon aussi, encore au début du mois de décembre. Donc, tout un groupe aussi qui participera pour un repas. Les calendriers sont au fond, il faut aussi les prendre. Pensez à les prendre, à les acheter. La librairie, il y a plein d'articles de Noël. Il y a tout un choix qui est venu spécialement pour Noël. Ils sont à votre disposition aussi là-bas. Et puis, la librairie cherche aussi du personnel. Personnel de librairie pour aider après le culte, à la sortie aussi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié d'autres annonces ? Oui, visiblement. C'est toi qui as oublié. Ça fait rien.
Le marché de Noël, ça arrive le 25 novembre. C'est dans deux week-ends.
Oui.
On a un stand comme d'habitude. Donc, j'ai même pas prévenu la librairie. Donc, voilà, c'est le moment de le dire. j'ai besoin de quelqu'un le matin jusqu'à 1h, de 9h à 1h. Et puis l'après-midi, deux personnes de 1h à 6h, si possible. Donc c'est à nouveau pour donner les feuilles pour la fête de Noël et puis partager un moment avec des gens qui viennent chaque année et puis partager le temps avec le mairie de Prefsaint, donc avec le commune. Quoi. Merci.
Marché, c'est donc le marché de Noël à la salle polyvalente Gaston Laverrière à Prefsaint et c'est le dimanche 25. Et la chorale chantera aussi, comme d'habitude. C'est un témoignage qu'on a d'être au marché de Noël. C'est pour nous hyper important. C'est un bon moyen de contact aussi. J'ai annoncé activité d'ado. Je vois qu'on me fait oui avec la tête. Donc voilà, c'était noté. C'est à 17h. Non ? Alors bon, les ados savent. Merci, en tout cas. Voilà, je vous invite à vous lever et dans la suite de ce qu'on a partagé ce matin avec nos frères et sœurs aussi de l'Église persécutée, je vous lirai ces quelques mots que Paul adressait à Philippe, à l'Église de Philippe, donc la ville de Philippe. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la paix soit avec vous tous. Bon dimanche, bonne semaine.